Vous êtes sur RTL. RTL Matin.
Avec Yves Calvi.
7h41, très bonne journée à vous tous qui écoutez RTL. Alba Ventura, vous recevez ce matin le ministre de l'économie, des finances et de la relance, Bruno Le Maire.
Bonjour Bruno Le Maire.
Bonjour Alba Ventura.
Vendredi soir, est-ce qu'on n'a pas reculé pour mieux confiner, monsieur le ministre ?
Non, je ne crois pas du tout.
C'est pas encore une semaine, monsieur le bourreau ?
Non, c'est le choix de la responsabilisation des Français, qui, je le rappelle, ont montré un immense sens des responsabilités depuis maintenant près de deux mois, puisque ça fait près de deux mois qu'ils sont soit en confinement, soit en couvre-feu. Ils ont montré à Noël, et nous avons montré collectivement à Noël, que nous savions respecter les règles. Tout le monde nous avait dit au lendemain de Noël, il y aura eu le 31, les fêtes de Noël, ça va flamber. Ça n'a pas flambé, parce que les Français ont été responsables. Le couvre-feu donne des résultats. Et je rappelle que le couvre-feu, il est pénalisant pour nous tous. Rentrer chez soi à 18h, faire ses courses à 18h et pas au-delà, c'est pénalisant pour tous les Français, pour les commerçants. Ça donne des résultats. Donc ça vaut le coup de faire le pari de la responsabilité,
oui,
d'éviter
mais pour combien
un confinement.
De temps ? Beaucoup de patrons, de chefs d'entreprise, de commerçants ont le sentiment d'avoir gagné une semaine. Donc on se demande tous là, est-ce qu'on est dans une semaine d'observation ?
Non, on est dans une semaine qui...
On sait qu'il y a eu des tirages entre vous au gouvernement.
Décisive. Décisive parce que si les choix que nous avons faits collectivement donnent des résultats, ça nous permettra d'éviter un confinement. Et je le redis parce que c'est ma conviction la plus profonde. Le confinement ne peut être que la toute dernière option lorsque toutes les autres ont été utilisées. Parce que le confinement pèse sur le moral des Français. Il pèse sur notre moral à tous et accessoirement, il pèse aussi sur les finances publiques.
Donc c'est un choix économique que vous faites ?
Absolument pas. J'ai bien pesé mes mots, Alba Ventura. Je vous ai dit que ça pesait d'abord sur le moral des Français. Ça pèse sur les familles, ça pèse sur les enfants, ça pèse sur les jeunes, ça pèse sur nous tous. On a tous envie de pouvoir circuler librement. On a tous envie de pouvoir retrouver notre vie normale. On en a tous assez de vivre comme ça. Donc si on peut éviter de vivre encore un peu moins bien avec un confinement, je pense que c'est le seul choix sage et responsable que d'utiliser toutes les autres options. Et ce choix sage et responsable, c'est le choix du président de la République, c'est le choix collectif du gouvernement autour du Premier ministre. Il n'y a pas un camp qui a gagné contre un autre. Il n'y a pas l'économie qui a gagné contre la santé.
Il n'y a pas eu une pression médicale ?
Non, il n'y a pas l'économie qui a gagné contre la santé.
À laquelle le président n'a pas voulu
Alba
se soumettre ?
Ventura, il n'y a pas d'un côté ceux qui disent « il faut à tout prix sauver l'économie » et de l'autre ceux qui disent « il faut à tout prix sauver la santé ». Il y a un ensemble d'hommes et de femmes qui forment un gouvernement qui décide parce qu'il a été choisi par l'ensemble des Français, ça s'appelle la démocratie, et qui pèse à chaque fois le pour et le contre. Mais nous sommes tous, lorsque nous prenons ces décisions, habités à la fois par la volonté de protéger la santé des Français et la nécessité, effectivement, de garder une économie qui fonctionne.
Vous dites on attend des résultats pour savoir quelle sera la suite. Quand interviendront ces résultats ?
Mais chaque jour, nous regardons les résultats.
Non, mais la prochaine échéance, pour savoir à quelle sauce nous allons être mangés.
Chaque jour, Alba Ventura, je discute avec le ministre de la Santé. Nous échangeons nos informations sur la situation sanitaire, la situation économique, la situation des finances publiques. C'est du travail collectif. Moi, j'en appelle une nouvelle fois à la responsabilité des Français. Ils ont montré une capacité de résistance exceptionnelle au cours des dernières semaines. Je souhaite que ce soit encore le cas pendant quelques jours.
C'est l'appel à la mobilisation générale, on l'a compris. Un choix en tout cas qui a conduit à fermer les centres commerciaux de plus de 20 000 m2, donc 400 environ, cela représente 25 000 magasins. Comment allez-vous les aider ?
D'abord, c'est un effort très important qui leur est demandé. Je vois certains qui disent « Ah, mais c'est pas beaucoup, c'est beaucoup, 25 000 commerces. » Derrière, c'est des milliers de salariés qui, aujourd'hui, n'ont pas repris le chemin du travail. Donc, nous les indemniserons totalement et rapidement. Ils auront accès au fonds de solidarité, tous les commerces déplafonnés jusqu'à 200 000 euros par mois. Ils auront accès à la prise en charge de 70% de leurs charges fixes. Ils auront accès au chômage partiel et ils auront accès à l'exonération de charges. Tous les dispositifs qui, pour l'instant, ne sont pas ouverts à tous les commerces leur seront ouverts. Et nous traiterons en particulier la question des loyers, qui, je sais, est la question la plus sensible pour ces grands centres commerciaux et pour ces commerces.
Donc les loyers seront pris en charge ?
Les loyers seront pris en charge et j'en ai pris l'engagement samedi. J'ai discuté avec tous ces représentants des centres commerciaux. Il est parfaitement normal qu'à partir du moment où on les ferme, il n'y ait pas de charge à assumer.
Certains petits patrons se plaignent de ne pas avoir reçu l'aide du fonds de solidarité. Qu'est-ce qui se passe ? Ce sont les lenteurs administratives ?
Non, il n'y a pas de lenteur administrative. Il y a
pourquoi
une direction générale des finances publiques qui fonctionne très bien. Mais à partir du moment où on a déplafonné le fonds de solidarité, vous pouvez toucher jusqu'à 200 000 euros par mois. c'est légitime qu'au moment où vous distribuez l'argent, il y a un contrôle. Quand le fonds de solidarité était limité à 1 500 euros par mois, effectivement, c'était automatique. À partir du moment où c'est jusqu'à 200 000 euros par mois, c'est des sommes qui sont très importantes. Moi, je suis comptable vis-à-vis du contribuable, de vous, de nos auditeurs, que chaque euro aille bien à ceux qui en ont réellement besoin. C'est un peu plus long parce qu'il y a des contrôles.
C'est un peu du cas par cas, on va dire, c'est
ça ? Il y a du cas par cas. Dès lors que, pour être tout à fait précis, vous donnez plus de 30 000 euros à un restaurateur, à un bar qui est fermé, il y a un contrôle systématique.
Un mois et demi de confinement, cela coûte 25 milliards sur le plan économique, 15 milliards par mois à peu près. En conservant le couvre-feu, Bruno Le Maire, est-ce qu'on limite les dégâts économiques ?
Oui, on limite les dégâts économiques.
De combien ?
On limite les dégâts sur les finances publiques, pour donner des ordres de grandeur très précis. Aujourd'hui, le couvre-feu nous coûte à peu près, fonds de solidarité et autres mesures, 6 milliards d'euros par mois. Le confinement total, avec fermeture des commerces et des écoles, c'est 15 milliards d'euros par mois, c'est 9 milliards d'euros de plus. La mesure que nous avons prise avec les commerces, c'est 500 millions d'euros de plus. Vous voyez, c'est pas du tout les mêmes ordres de grandeur. Vous en faites des choses avec 9 milliards. Vous pouvez en rénover des hôpitaux, des crèches, des écoles, des universités. Donc nous devons aussi faire attention que l'argent soit à chaque fois bien employé.
Jusqu'à quand le quoi qu'il en coûte ? Parce qu'on n'a pas très bien compris. Olivier Dussopt, le ministre des Comptes publics, nous disait fin 2021, il faudra avoir d'arrêter peut-être tout ça. Elisabeth Borne, ministre du Travail, qui était à votre place la semaine dernière, nous dit non, ça va perdurer. Jusqu'à quand ?
Moi, je donne pas de date, mais un principe. Tant que la crise sanitaire durera, tant qu'il y aura des restrictions sanitaires, il y aura soutien aux salariés, au commerce, aux entreprises, à notre économie.
Bruno Le Maire, sur le plan pratique, pour ne pas se retrouver avec les questions prises de tête de la dernière fois, le supermarché dans le centre commercial reste ouvert. Il peut tout vendre ou il y a de l'essentiel et du non-essentiel ?
Il pourra tout vendre. On a tiré les leçons. J'essaye à chaque fois, vous savez, de tirer les leçons de nos erreurs. Le premier confinement a coûté 30 points d'activité. Le deuxième, ça a mieux fonctionné, 12 points d'activité. Mais il y a eu un loupé. Le loupé, c'est commerce essentiel et non essentiel. D'abord, ça a été perçu à juste titre comme dévalorisant pour un certain nombre de commerces. Donc, la formulation n'était pas la bonne. Et en deuxième lieu, ça donnait lieu à des scènes ubuesques où on allait fermer le rayon du mascara, mais pas celui de la poudre, dans un supermarché.
Oui. Mais alors là,
on va éviter de refaire deux fois la même chose. Là, c'est extrêmement simple. Tous les commerces au-dessus de 20 000 m², donc les grandes galeries commerciales, les grandes galeries marchandes, sont fermés, sauf les supermarchés qui vendent de l'alimentaire. Et dans ces supermarchés qui vendent de l'alimentaire, si vous pouvez trouver une paire de chaussettes ou un t-shirt ou un mascara, bah vous pourrez l'acheter, ça ne posera pas de problème.
Voilà, donc le grand magasin de bricolage
de
ferme, mais le supermarché qui se trouve dans le centre commercial garde ses rayons de
pas
bricolage ouverts.
Pas de distinction
ouvert.
Sur les rayons, parce que c'est absolument ingérable. On l'a vu en novembre, j'essaie de ne pas refaire les mêmes erreurs, où vous aviez à juste titre multiplié les reportages sur les rayons qui étaient fermés avec des bandeaux, et pourquoi est-ce qu'une fois encore le dentifrice était autorisé et pas la pâte à tartiner, ou l'inverse.
Donc on ira faire les courses et on constatera. Comment allez-vous contrôler les jauges ? Vous allez mettre des agents de la DGCCRF ?
Je veux dire là aussi avec beaucoup de clarté, à partir du moment où nous faisons ce choix de responsabilité, les contrôles seront plus stricts. Nous allons contrôler les jauges, soit elles se font de manière automatique par les magasins, soit ça ne l'est pas, nous le contrôlerons nous-mêmes. Un commerce qui ne fermerait pas, qui ne respecterait pas les règles de jauge, je rappelle que c'est une personne tous les 10 mètres carrés désormais, pour les commerces supérieurs à 400 mètres carrés, eh bien dans ce cas-là, une amende d'abord, une fermeture ensuite.
Monsieur le ministre, quelques restaurateurs ont décidé de rouvrir malgré l'interdiction. On l'a vu à Nice, on l'a entendu tout à l'heure sur RTL dans le Doubs. Est-ce qu'il y aura des sanctions pour ces personnes-là, pour ces patrons ?
C'est extrêmement dur pour les restaurateurs, je le sais. Extrêmement dur moralement et économiquement. Ça ne justifie en rien de ne pas respecter des règles qui sont d'abord des règles sanitaires.
Donc,
on sait tous que dans les restaurants, il y a des risques de contamination.
Qu'est-ce qu'ils auront comme sanction ?
Donc les choses sont très simples. D'abord, c'est quelques cas isolés. Arrêtons de penser que l'immense majorité des restaurateurs respectent les règles, sont fermés. Il y a quelques cas isolés. Tous ceux qui restent ouverts, à partir du moment où ils font ce choix de ne pas respecter la règle, seront suspendus pendant un mois de l'accès au fonds de solidarité. Et si jamais il y a récidive, ils n'auront plus accès du tout au fonds de solidarité. Je pense qu'à partir du moment où nous sommes généreux, où nous soutenons massivement tous ceux qui sont fermés, une fois encore, c'est juste et c'est légitime. Il est aussi juste et légitime que nous disions clairement ceux qui ne respectent pas les règles n'auront plus de soutien de la part de l'État.
Il y a des fraudes, globalement,
isolés,
sur les dispositifs. Mais combien ?
Je ne peux pas vous donner de chiffres précis, mais c'est quelques cas isolés en France. Je ne veux pas que ça se répande, que ça devienne soit une habitude, soit une façon de braver l'interdit. Ce n'est pas un interdit, c'est une règle collective pour garantir la santé de tous. Donc un restaurateur, un bar qui s'amuserait à rester ouvert...
Non, mais je disais globalement, immédiatement, Bruno Le Maire.
Immédiatement le nom du propriétaire. Et à partir du moment où il ne respecte pas les règles, plus de fonds de solidarité pendant un mois, suspension. Et s'il y a récidive, plus de fonds de solidarité du tout.
Est-ce que sur les fraudes, vous allez récupérer de l'argent? Est-ce qu'il y en a? Combien ça représente?
Aujourd'hui, on est dans la phase où on instruit les contrôles. On a 300 000 contrôles qui sont faits avant distribution de l'argent, qui sont en cours d'examen. Nous avons 93 000 contrôles a posteriori, soit des restaurateurs qui disent « j'ai pas touché ce que je devais, c'est normal », soit des soupçons de fraude qui méritent d'être contrôlés. La Cour des comptes, c'est le seul chiffre qui était donné publiquement, évalue ces fraudes à 100 millions d'euros. Je pense que c'est davantage aujourd'hui, mais je ne peux pas vous donner de chiffres précis puisque les cas sont en train d'être instruits.
Monsieur le ministre, le président Macron a donc sonné la mobilisation générale. J'ai confiance en vous, les heures que nous vivons sont cruciales. Faisons tout pour freiner l'épidémie ensemble. Alors pour freiner l'épidémie, il y a la vaccination, mais Olivier Véran a beau avoir égrené des chiffres. 4 millions de vaccinés fin février, 30 millions fin mai, 70 millions en juillet. On a du mal quand même à y croire à cause de l'approvisionnement. Et puis des choix. Je m'arrête un petit instant sur les choix. Comment vous expliquez que la start-up Valvena franco-autrichienne, qui fabrique notamment à Nantes, va livrer son vaccin au Royaume-Uni dès l'automne et pas l'Union européenne? Nous, on va devoir attendre 2022.
Je vais vous dire très simplement, Alba Ventura, ce n'est pas moi qui gère au gouvernement cette question très complexe des vaccins. J'ai une ministre déléguée remarquable qui s'appelle Agnès Pannier-Runacher, qui travaille là-dessus avec le ministre de la Santé.
Et vous n'ignorez pas ce qui se passe dans votre dans le Bercy.
Bien entendu, mais c'est des sujets qui sont complexes, techniques. Je ne veux pas vous dire de bêtises, tout simplement. Donc c'est elle qu'il faut interroger.
Alors, dans la même veine, la vice-présidente de BioNTech, Cataline Carico, qui s'exprime dans le magazine Le Point, je vous cite ses propos. La France, c'est un beau pays pour les vacances d'été, mais essayez donc de comprendre pourquoi les Français ont dû venir ici aux États-Unis. Pourquoi Stéphane Bancel, le PDG de Moderna, ne dirige pas une entreprise française en France pour mettre au point des vaccins? Pourquoi il n'y a pas plus de sociétés comme BioNTech en France? Je pense, dit-elle, que c'est à cause du financement. Ici, avec le capital risque, on donne davantage aux petites entreprises. Ici, donc, aux États-Unis, les gens investissent plus dans les biotechnologies.
J'ai lu cette interview. C'est une interview absolument remarquable. Et je partage tout ce qu'elle dit dans cette interview. Il faut que nous tirions les leçons de cette crise. Il faut que la France retrouve le goût du risque, prendre des risques sur les innovations de rupture. Il faut que nous soyons capables d'avoir plus de profondeur financière pour financer ces start-up. Je vous dis juste, Alba Ventura, qu'avec le président de la République et le Premier ministre, c'est ce que depuis plusieurs mois, dans le cadre du plan de relance, nous avons décidé de faire. Nous allons mettre beaucoup d'argent dans le programme d'investissement d'avenir sur les technologies de santé, sur l'immunothérapie, sur les biotechnologies, parce qu'on a conscience que ça se chiffre en milliards d'euros. On verra ensuite comment est-ce qu'on les répartit, mais ça se chiffre en milliards d'euros. Parce que c'est un vecteur de développement et de création de valeur pour notre pays exceptionnel. En deuxième lieu, il faut développer le capital risque. Il faut qu'une start-up, et qui ensuite veut devenir une entreprise plus importante, surtout dans le domaine de la santé, puisse lever non pas des millions, mais des milliards. Il faut enfin développer l'union des marchés de capitaux. Je me bats pour ça depuis près de 3 ans au niveau européen. Vous avez un marché unique où les personnes et les marchandises circulent librement et vous n'avez pas de marché unique de capitaux. Donc quand vous empruntez de l'argent, vous ne pouvez pas l'emprunter aussi bien à Bruxelles, Berlin ou Rome ou Paris de manière libre. Créer l'union des marchés de capitaux, c'est donner des milliards pour développer l'industrie de la santé en France et en Europe.
Merci beaucoup, monsieur le ministre. On va vous retrouver tout à l'heure.
Le confinement ne peut être que la toute dernière option, vient nous dire Bruno Le Maire. Tant que la crise sanitaire durera, le soutien du gouvernement durera. Bruno Le Maire qui annonce la suspension 1 mois du fonds de solidarité pour les restaurants qui fraudent. En effet, on vous retrouve avec nos...